Le contrôleur d'État, Matanyahu Engelmann, a vivement critiqué la gestion de la crise climatique, gérée donc par le gouvernement israélien, affirmant d'ailleurs que la plupart des lacunes constatées n'ont pas été corrigées. On en parle ce matin avec Jonathan Eichenbaum, il est directeur adjoint de la Fédération israélienne des ONG de l'environnement. Il est au micro de Blaise van der Linden.
Jonathan Eichenbaum, bonjour.
Bonjour Blaise.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors le rapport du contrôleur israélien a révélé que l'État hébreu n'est pas préparé au changement climatique. Dans les rapports publiés par le contrôleur, il a vivement critiqué l'incapacité du gouvernement à s'attaquer à ces problèmes et l'absence de plans réalisables et budgétisés en la matière. C'est aussi ce que vous remarquez ?
Oui, c'est ce qu'on remarque depuis des années. C'est-à-dire que Israël fait face, bon, comme le monde entier, à une aggravation du dérèglement climatique. Il fait de plus en plus chaud, il y a de plus en plus de sécheresses, des incendies à grande échelle. On a notamment vu pendant la guerre, et notamment à la frontière nord, avec les missiles que le Hezbollah envoyait sur le nord d'Israël, ont causé des incendies à peu près 6 ou 7 fois plus importants que ce qu'il y avait dans la moyenne. Et c'était aussi lié au réchauffement climatique, puisqu'il y a de plus en plus de matières sèches qui s'accumulent. Enfin bref, tous les problèmes en fait s'accumulent un petit peu comme au monde entier. Et cependant, la politique ne suit pas. Il y a des plans qui sont réalisés, mais ils n'ont pas de budget qui permette de. Il y a des plans qui sont juste écrits, mais il n'y a pas de budget qui permette de les réaliser, ces plans. Et puis il y a aussi toutes sortes de différents ministères qui préfèrent faire avancer d'autres politiques, y compris certaines politiques qui vont aggraver le dérèglement climatique. Voilà, je pense à des tas de décisions, mais puis il y a des choses qui sont liées. Par exemple, Israël repose quasiment entièrement sur le dessalement d'eau pour produire de l'eau douce. Et le dessalement, c'est à peu près 20% de la facture d'électricité israélienne. Et c'est une facture qui est produite pour l'essentiel encore par le gaz et par le charbon. Donc la consommation augmente sans cesse. On veut maintenant aussi construire des data centers pour l'intelligence artificielle. Donc tout ça augmente sans cesse. Il n'y a pas de politique cohérente, ni pour ce qu'on appelle la mitigation, c'est-à-dire faire baisser les gaz à effet de serre, ni pour l'adaptation, qui est un point essentiel, avec des vagues de chaleur qui sont plus importantes. Et là, vu la situation qui est en Europe ces derniers jours, je ne vous apprends rien.
Ouais, on reviendra évidemment sur la comparaison avec les vagues de chaleur qu'on a vécues en Europe. Mais j'aimerais revenir sur le point politique avec vous. Il n'existe toujours pas de loi sur le climat en Israël. Alors il y a un comité ministériel qui est présidé par la ministre de la Protection de l'Environnement qui s'appelle Idit Zilman et elle est censée dresser un bilan des travaux ministériels sur le sujet. Ce comité, il ne s'est jamais réuni. Jonathan Eichenbaum, on a l'impression que les politiques ne prennent pas ce problème très sérieusement en Israël.
Oui, alors, vous savez, ça fait à peu près 13 ans que je suis dans le domaine et que j'ai eu l'occasion de connaître tous les ministres de l'environnement depuis 13 ans. Certains étaient de droite, quelques-uns étaient de gauche. Il y a eu différentes personnalités. On n'a jamais connu quelque chose qui s'approchait d'Yves Silman en termes de manque d'intérêt pour le domaine lui-même. Tout est extrêmement politisé. Le ministère a l'habitude de transmettre des dons aux organisations de protection de l'environnement. Elle ne les transmet pas parce qu'elle considère que toutes les organisations sont contre le gouvernement. Enfin bref, il y a toute une politisation de ce domaine-là. C'est quand même fortement professionnel au départ. Et pour ce qui est de la loi cadre sur le climat, donc c'est une loi. La réunion de ce comité, c'est un des problèmes les plus faibles, les plus petits par rapport à cette loi, puisque pour l'essentiel, le ministère des Finances ne souhaite pas une loi qui soit une loi forte. Il veut une loi faible, une loi où on puisse jouer avec les objectifs, où on puisse les réduire à souhait. Parce que si vous voulez, il voit un peu tout ce que je vous expliquais sur l'augmentation du dessalement, sur l'augmentation des data centers, sur la volonté aussi de produire plus de gaz, de chercher encore plus de gaz. Et donc finalement, avoir une loi sans climat, ça vient limiter toutes ces possibilités. Et Israël, par rapport à ça, fait ses choix. Et c'est un choix qui, peut-être sur le court terme, va se réveiller payant, je ne sais pas. mais sur le long terme, en fait, va se révéler désastreux, puisque le changement climatique est une réalité qui s'impose dans le monde entier, et que avoir des ambitions climatiques pour un pays, eh bien, ça veut aussi dire une capacité d'être à la pointe, une capacité de voir de nouveaux marchés s'ouvrir. Voilà, alors qu'Israël fait face à un isolement de plus en plus grand, c'est ce qu'il faudrait faire, en fait.
L'isolement, justement. D'après les conclusions d'un rapport, Israël ne devrait pas atteindre l'objectif qu'il s'est fixé de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 27% d'ici 2030. La réduction ne devrait être que de 19%, alors que la plupart des pays de l'OCDE, la tendance est à une réduction de 43% d'ici la fin de la décennie. Il y a un monde entre ces deux chiffres. Est-ce que Israël pourrait se faire taper sur les doigts par les pays qui l'entourent?
Alors, pas vraiment, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que toute la diplomatie du climat est faible. C'est une diplomatie qui ne possède pas de sanctions. Même si tout le monde participe et tout le monde y va de bon cœur, avec beaucoup de bonne volonté, c'est une gouvernance faible. Alors ça, c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est que il y a, si vous voulez, toutes sortes de coalitions, et notamment une coalition tacite entre les États-Unis de Donald Trump, d'une part, et les pays pétroliers, d'autre part, qui de toute façon veulent pousser tout ce système à prendre son temps. Et donc là, par rapport à ça, les véritables leaders de la politique climatique, c'est l'Union européenne, d'une part, et d'une certaine manière, mais alors d'une manière un peu complexe, la Chine, qui fait face aussi à de terribles résultats du dérèglement climatique, et puis qui est capable d'investir d'une manière qu'aucun pays ne fait. Et ce qui fait que voilà, on avance vers une diplomatie à deux vitesses par rapport à ça. Et puis c'est pas seulement une diplomatie à deux vitesses, c'est aussi deux formes de diplomatie. C'est d'un côté le multilatéralisme avec les pays qui sont des ambitieux au niveau de la politique climatique, et puis d'un côté tout ce qui est une sortie du multilatéralisme, Trump en tête. Et par rapport à Israël, le suit toujours, bon an mal an. Voilà, malgré le fait qu'il y a quand même une distanciation entre Jérusalem et Washington ces derniers mois plutôt.
Alors vous l'avez rappelé, ici en Europe on a vécu une forte vague de chaleur. On s'apprête peut-être, selon certains analystes, à revivre d'ici quelques semaines la même vague de chaleur. En Israël, ça a été un peu ça a un peu moins touché le continent, enfin pas le continent, plus le pays plutôt, cette vague de chaleur. Mais est-ce que vous vous préparez aussi chez vous à vivre la même chose que nous avons vécu, nous?
Oui, alors il y a aussi en Israël des vagues de chaleur qui sont de plus en plus importantes, de plus en plus nombreuses. Je me souviens pas qu'on ait des vagues de chaleur qui soient de l'intensité et de la durée de celles que vous êtes en train de vivre maintenant. Je sais que voilà, vous êtes juste en quelques jours un peu d'accalmie, ensuite ça repartait sur les 38, 39 degrés encore dans plein d'endroits en Europe. Généralement en Israël, oui, ça arrive aussi, mais je pense pas qu'on arrive à cette intensité qu'il y a en Europe. Mais alors, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est je pense deux choses. C'est que d'une part, bon, le dérèglement climatique est causé par des gaz à effet de serre qui bloquent la chaleur, et tout ça bouleverse la circulation atmosphérique. Ce qui fait qu'on a des blocs de chaleur qui se bloquent sur certains endroits, et puis sur d'autres endroits, eh ben, ils se bloquent pas, ou au contraire, sur d'autres endroits, plus petits généralement, on va avoir plus de froid, donc il va faire moins chaud. Donc c'est un peu des mécanismes du dérèglement climatique qui sont relativement simples à suivre. La deuxième chose, et là où on sent essentiellement le dérèglement climatique en Israël beaucoup plus qu'en Europe, c'est en fait dans la comparaison moins dans les mois d'été que dans les mois d'hiver. Voilà, on va dire comme ça qu'en Europe, de manière générale, l'Europe a quand même des hivers où on sent quand même toujours le froid, de manière assez significative, même si ça commence à se réduire, et des vagues de chaleur, par contre, qui sont complètement démentielles en été. Dans un pays comme Israël, c'est un peu plus mesuré, et pour ce qu'on voit pour l'essentiel, c'est une réduction, mais alors dramatique, de l'hiver. L'hiver en Israël a disparu. Les journées froides n'existent quasiment plus. Donc ce qu'on constate, par contre, là où ça a une des conséquences, c'est que quand vous n'avez plus d'hiver, eh bien, ça veut dire que même s'il va faire doux en hiver, ça va être agréable, il va faire, je ne sais pas, 15 degrés, c'est agréable, il ne fait pas chaud, mais il ne fait pas non plus froid. Et eh bien tout ça cause de l'évaporation. C'est-à-dire à 10 degrés, vous avez une évaporation que vous n'avez pas à 5 degrés. Et cette évaporation, qui va venir avec des événements de avec des pluies qui au lieu de tomber doucement vont tomber très fortement et sur de très courtes périodes. Tout ça fait un sol qui est très sec. Et donc ça c'est la cause d'incendie, c'est la base de la sécheresse. Donc Israël se trouve en état de sécheresse intense, et ce qu'on constate sur le plus long terme, c'est que le nord d'Israël va passer à un état de, comme il est maintenant, méditerranéen, bioméditerranéen, un milieu plus semi-désertique. Et par contre, ce qu'on va voir dans le sud d'Israël, Negev, c'est que les pluies vont un petit peu augmenter, donc on va avoir, ça va être un petit peu moins désertique, voilà, mais ça va pas non plus être si dramatique que ça, mais on a globalement une désertification de l'ensemble d'Israël suite au changement climatique. J'ajouterais juste un mot sur les forêts du KKL, qui sont des forêts de pins ukrainiens, qui bien sûr brûlent très facilement, qui résistent plus ou moins. Ces forêts sont destinées, ne vont pas survivre indéfiniment par rapport à ça. Elles ne sont pas pérennes par rapport au changement climatique.
Jonathan Eichenbaum, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la Fédération israélienne des ONG de l'environnement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka.
Merci beaucoup à vous.